إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on continue la lecture du chapitre sur l'exposé de la diversité des voies de bien tiré du livre Les Jardins des Vertueux d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours d'hier les deux premiers hadiths rapportés par Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu et les hadiths suivants que nous allons voir aujourd'hui sont également rapportés par lui. Il a donc dit dans le troisième hadith, et Abu Dharr a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a exposé les œuvres de ma communauté, les bonnes et les mauvaises. Parmi les bonnes, j'ai trouvé le fait de retirer un objet gênant de la route, et parmi les mauvaises, qu'un crachat ait lieu dans la mosquée et qu'il ne soit pas enterré. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a exposé les œuvres de sa communauté, les bonnes œuvres ainsi que les mauvaises. Et parmi les bonnes œuvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé le fait de retirer un objet gênant de la route, c'est-à-dire tout ce qui peut porter préjudice aux passants. Ceci fait donc partie des bonnes actions par lesquelles le musulman se rapproche de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit cette chose que tu retires, que ce soit une épine, que ce soit un bâton, la branche d'un arbre, que ce soit des pierres, des morceaux de verre, ou alors des impuretés que tu nettoies ou autre chose semblable. Tout ce qui peut porter préjudice aux passants, le fait de le retirer de la route, fait partie des bonnes actions par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé, comme on le verra dans un autre hadith, que ceci est une aumône. Et dans un autre hadith, il nous a informé que ceci fait partie des branches de la foi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée d'un peu plus de 70 branches. La plus haute est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse est le fait de retirer un objet gênant de la route. Donc lorsque tu trouves une chose qui peut porter préjudice aux passants sur un chemin, le fait de le retirer fait partie des bonnes actions. Il est donc nécessaire pour le croyant de ne pas négliger cette œuvre qui fait partie des meilleures œuvres de la communauté de l'islam. Et il n'y a pas de doute que si le fait de retirer un objet gênant de la route fait partie des aumônes et des bonnes actions, alors, inversement, le fait de placer des objets gênants sur la route, ceci fait partie des mauvaises actions, comme le font certaines personnes qui jettent leur détritus sur la route. Lorsqu'ils mangent, qu'ils jettent les épluchures de la nourriture qu'ils mangent sur la route, ou alors l'emballage qu'ils le jettent par terre, ou autre chose semblable. Tout ceci fait partie des nuisances pour lesquelles la personne aura des comptes à rendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui portent préjudice aux croyants et aux croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Et ceci est le verset 58 de Surat al-Ahzab. On voit donc à travers cela que le fait de porter préjudice aux croyants et aux croyantes, comme en plaçant des objets gênants sur leur chemin, quelle que soit cette chose qui est placée sur leur chemin, la personne est pour cela dans le péché. Et les gens de science ont dit que si une personne se blesse en raison de cet objet gênant qui a été placé sur ce chemin, ou qu'un animal glisse et se brise un membre, alors cette personne qui a jeté cette embûche en est responsable, car il a ainsi porté préjudice aux musulmans. Et entre dans cela ce que font certaines personnes dans certains endroits, qui versent de l'eau sur la route ou sur les trottoirs, portant ainsi préjudice aux gens qui marchent sur cette route ou sur ce trottoir. Il se peut même parfois que des voitures passent, roulent dans cette eau qui a été versée sur la route, et ainsi éclaboussent des passants et salissant leurs vêtements. Il n'y a pas de doute que ceci est une nuisance. Par conséquent, la personne est pour cela dans le péché. Malheureusement, beaucoup de personnes ne prêtent pas d'attention à ces choses-là. Il y a des gens qui jettent leurs détritus par terre et qui n'y prêtent pas attention, comme si c'était une chose insignifiante. D'autres personnes jettent des morceaux de verre ou des bouteilles en verre et les laissent se briser par terre dans la nature, n'y prêtent pas attention, et pensent que cela est insignifiant, alors que ceci fait partie des péchés, et cela s'oppose à la perfection de la foi. Que dire alors de ceux qui vont volontairement, pour une raison ou pour une autre, obstruer le chemin, bloquer des routes, sous prétexte de réclamer leurs droits ou autre chose semblable, comme le font certaines personnes dans certains endroits lors de manifestations ou autres. Ceci n'est pas permis et s'oppose à la perfection de la foi. Il fait donc partie des prescriptions de notre noble religion de ne porter aucun préjudice aux croyants et de ne pas obstruer leur chemin par un quelconque objet gênant. Et si tu observes un objet gênant sur un chemin, le fait de le retirer te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais cela avec une bonne intention. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith qu'il a vu parmi les mauvaises œuvres le fait qu'un crachat ait lieu dans la mosquée, c'est-à-dire qu'une personne crache dans la mosquée et qu'elle n'enterre pas ce crachat. En effet, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il n'y avait pas de moquette dans la mosquée, mais le sol était de terre et de petits cailloux. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté dans ce hadith vers le fait d'enterrer le crachat si cela devait arriver, tout en sachant que le fait de cracher dans la mosquée est interdit, et celui qui le fait est dans le péché, car on rapporte dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cracher dans la mosquée est une mauvaise action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc clairement affirmé que ceci est une mauvaise action, c'est-à-dire que c'est un péché. Et l'expiation de ce péché, c'est quoi? C'est d'enterrer le crachat, c'est-à-dire à leur époque, lorsque la mosquée était en terre. Il fallait l'enterrer afin que celui-ci ne porte préjudice à personne. C'est-à-dire que si cela arrive et que la personne veut se repentir, elle se doit de l'enterrer. Et à notre époque, à supposer que cela arriverait, la personne devrait le nettoyer en le frottant avec un mouchoir, de l'eau ou autre. Et ce, jusqu'à ce que cela disparaisse. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que ceci fait partie des mauvaises actions, que dire alors du fait de salir la mosquée avec des impuretés ou autre chose semblable? Lorsque tu viens à la mosquée, tu dois tenir compte de la sacralité de ce lieu. Tu es dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois porter à ce lieu sa juste valeur, ne pas le négliger, ne pas le salir, mais au contraire veiller à sa propreté. Certaines personnes, parfois, il faut tomber des saletés dans la mosquée et ne les ramasse pas. Se peut que l'un d'entre eux fasse tomber un mouchoir et le laisse par terre. Et ceci est une nuisance. Si tu fais tomber quelque chose dans la mosquée, une quelconque saleté, tu te dois de la ramasser. Car il fait partie de la perfection de la foi de donner à ce lieu sa juste valeur, de le respecter et d'en prendre soin. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a ensuite mentionné un quatrième hadith qui est également rapporté par Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, et dans lequel il a dit: des gens ont dit, ô messager d'Allah, les gens riches se sont accaparés les récompenses. Ils prient comme nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Et ils donnent des aumônes avec leurs richesses. Donc ici, ces gens sont venus se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, espérant qu'il les oriente vers une œuvre qui leur permettrait d'atteindre le rang de ces riches qui font aumône de leurs biens. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les orienter vers d'autres manières de faire l'aumône. Car comme on l'a vu dans le cours d'hier, l'aumône a un sens large. Elle n'est pas limitée à l'aumône que tu fais avec l'argent. Il leur a donc dit: chaque tasbiha est une sadaqa. À chaque fois que tu dis subhanallah, c'est une sadaqa. Chaque takbira est une sadaqa. À chaque fois que tu dis Allahu Akbar, ceci est une aumône. Chaque tahmida est une aumône, est une sadaqa. À chaque fois que tu dis Alhamdulillah, ceci est une aumône. Chaque tahlila est une aumône. À chaque fois que tu dis La ilaha illallah, ceci est une aumône. Ensuite, il dit: ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Et lorsque l'un d'entre vous a des rapports intimes, ceci est une aumône. Des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, se sont alors étonnés et ont dit: « Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous a assouvi ses désirs et il a en cela une récompense. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit alors: « Voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'interdit, n'aurait-il pas eu un péché? De la même manière, s'il l'a assouvi dans le licite, il a une récompense. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. On voit donc dans ce hadith que ce groupe de gens sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait que les gens riches les dépassaient dans les œuvres de bien en raison du fait qu'ils faisaient des aumônes avec leur richesse. On comprend donc que ces personnes qui sont venues se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens pauvres qui n'avaient pas de quoi faire l'aumône. Ils sont donc venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: « Regarde, ils prient de la même manière que nous prions. Ils jeûnent de la même manière que nous jeûnons. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils font des aumônes avec leur richesse. » C'est-à-dire, nous sommes égaux à eux en termes de prière et en termes de jeûne. Mais eux, ils nous dépassent du fait qu'ils peuvent faire des aumônes avec leur richesse. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné suffisamment de biens leur permettant de faire des aumônes. Et on voit à travers cela le rang éminent des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Regardez quelles étaient leurs ambitions. Regardez quelles étaient les choses desquelles ils se préoccupaient. Lorsqu'ils ont vu leurs frères comblés de richesses, ils ne les ont pas enviés pour leurs richesses. Ils ne sont pas venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: les riches ont de grandes maisons, ont de belles montures, ont de beaux vêtements que nous, nous n'avons pas, comme est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils envient les riches pour leurs biens mondains. Et c'est de cela que nombre de personnes se plaignent aujourd'hui. Ils aimeraient avoir les mêmes maisons qu'eux, les mêmes voitures qu'eux, les mêmes vêtements qu'eux, et ainsi de suite. Ils les envient pour ce bas monde. Mais les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce n'est pas par cela qu'ils étaient préoccupés. Ils sont venus se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'avec ces richesses, ils avaient un moyen de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala que eux n'avaient pas. Donc ils cherchaient un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une autre manière afin d'atteindre leur rang. Et ce car les compagnons radiyallahu ta'ala anhum avaient conscience que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable. Et que ce bas monde n'est qu'éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: « Bal tu'thirun al-hayat al-dunya » وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Telle est la situation de beaucoup de gens qui préfèrent la vie présente, les biens éphémères, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, cela est meilleur que les biens de ce bas monde et cela est plus durable car ce sont des délices éternels qui n'ont pas de fin. Contrairement à tout délice et tout plaisir auquel tu peux goûter dans ce bas monde, il aura nécessairement une fin. Mais dans l'au-delà, les délices seront éternels et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Donc ces compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il les oriente vers un acte les permettant de rattraper les gens riches dans les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc orientés vers ces œuvres de bien qui sont des aumônes. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ordonner le bien, interdire le mal. Tout ceci font partie des aumônes. En ce qui concerne le rappel d'Allah, on l'a vu dans le cours d'hier. Et on voit ici que le fait d'ordonner le bien et interdire le mal fait également partie des aumônes, pour lesquelles tu es récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que ceci fait même partie des meilleurs des aumônes. Car le commandement du bien et l'interdiction du mal font partie des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé la communauté de l'islam. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, au verset 110 de surat Ali Imran, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. » Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de la communauté de l'islam. Vous êtes la meilleure communauté. Qu'est-ce qui fait de la communauté de l'islam la meilleure communauté? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et croyez en Allah. C'est par cet ordre immense que la communauté de l'islam se distingue des autres communautés. Le commandement du bien et l'interdiction du mal. Toutefois, il est important de savoir que le commandement du bien et l'interdiction du mal ont des règles. Ceci ne doit pas avoir lieu de manière anarchique. Car certaines personnes, parfois, en raison de leur désir de faire le bien, lorsqu'ils apprennent les mérites du commandement du bien et de l'interdiction du mal, ils vont parfois emprunter un chemin qui est contraire à la voie droite à emprunter à ce sujet. Il est donc nécessaire pour nous de nous rappeler les conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal. La première condition est que celui qui ordonne et interdit ait connaissance du jugement religieux de la chose qu'il ordonne ou qu'il interdit. Donc la première condition, c'est la science. Celui qui est ignorant, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit d'ordonner ou d'interdire. Car lorsque tu ordonnes une chose, cela signifie que tu considères que ceci fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu interdis une chose, cela signifie que tu considères que cette chose est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui rend licite ou illicite les choses, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous est pas permis de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Allah subhanahu wa ta'ala a formellement interdit cela dans son noble livre. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 33 de sourate Al-A'raf: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que cachées, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Les gens de science ont dit que ce verset est une preuve que le fait de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas est un péché plus grave que le polythéisme. Car ceci en réalité est la base du polythéisme, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc il fait partie des choses les plus blâmables qu'une personne parle au sujet d'un jugement religieux en disant que ceci est obligatoire ou que ceci est interdit, et qu'il le fasse sans aucune science. Comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, en prenant cela à la légère. Il te dit ceci est une obligation, tu dois faire cela, mais il n'a aucune preuve que cet acte est obligatoire. Ou alors, beaucoup de personnes ont dû laisser aller à dire ceci est haram, sans avoir aucune preuve que cette chose est réellement interdite. Donc tu dois prendre garde. La première condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal, c'est la science. Si tu as la science, que tu sais avec certitude qu'une chose est obligatoire, qu'elle fait partie du ma'ruf, qu'elle fait partie du convenable, alors tu l'ordonnes. Si tu ne sais pas, alors tu te tais. Si tu as la certitude avec science, preuve et argument, qu'une chose est interdite, d'après les textes du Coran et de la Sunna, alors il t'est permis d'interdire cette chose. Et ceci fait partie des bonnes œuvres. Mais si tu ne sais pas, alors tu te tais. Et c'est cela qui t'incombe dans cette situation. La deuxième condition, et que tu saches que la personne à qui tu t'adresses a réellement délaissé ce qui est ordonné ou a réellement commis ce qui est interdit. Car si tu ne sais pas si elle a délaissé une obligation ou si elle a commis un interdit, alors, à ce moment-là, il ne t'est pas permis de lui ordonner ou de lui interdire. Car si tu fais cela, tu parleras d'une chose au sujet de laquelle tu n'as aucune connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela dans son noble livre. Il dit dans le verset 36 de Sourate Al-Isra: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Il y a certaines personnes parfois qui ont une certaine ferveur, qui veulent ordonner le bien et interdire le mal, mais qui se précipitent. Ils vont se précipiter de blâmer une personne avant de s'assurer que cette personne a réellement commis un interdit. Il se peut par exemple que tu vois une personne manger durant une journée de Ramadan. Et alors, Quelqu'un vient et s'empresse de la blâmer, alors qu'il se peut que cette personne soit malade et qu'elle ne puisse pas jeûner, ou alors que cette personne soit en voyage et qu'il lui soit permis de rompre. Donc la première chose à faire est que tu t'assures que cette personne commette bel et bien un interdit. Et que tu l'interroges. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi es-tu en train de manger? Et en fonction de sa réponse, tu pourras lui commander le bien et lui interdire le mal. Mais ne pas te précipiter. Médite à ce sujet sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme est entré à la mosquée, le jour du vendredi, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de prononcer le sermon. Et cet homme s'est assis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a alors interrogé et lui a dit « As-tu prié ?» L'homme lui répondit que non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit « Lève-toi et prie deux unités. » Vous voyez donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas commencé par lui dire de ne pas s'asseoir et de prier. Mais il s'est d'abord assuré que cet homme n'avait pas prié. En effet, il se peut qu'il ait prié à un autre endroit, donc il s'assure qu'il n'ait pas prié. Une fois qu'il lui répondit que non, il lui ordonne de se lever et d'accomplir deux unités, qui sont les deux unités de salutation de la mosquée. Car lorsque tu rentres à la mosquée, il est légiféré de ne pas t'asseoir avant d'avoir prié deux unités de prière. Quel que soit le moment où tu entres à la mosquée, que ce soit le matin, l'après-midi, après l'asr, après le maghreb, après le fajr ou à n'importe quel autre moment. Lorsque tu entres à la mosquée, tu ne t'assois pas avant d'avoir prié deux unités, comme cela est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le voyez dans ce hadith, cet homme est entré, il s'est assis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a donc interrogé tout d'abord, car il est probable qu'il ait prié et qu'il ne l'ait pas vu. Il lui a donc demandé « As-tu prié ?» Une fois que l'homme lui a répondu non, il lui a dit « Lève-toi et prie deux unités. » Donc ceci fait partie de la sagesse dans le commandement du bien et de l'interdiction du mal. Que tu t'assures que la personne est bel et bien délaissée un ordre ou transgressée un interdit. La troisième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal, c'est que ne découle pas de cela un mal encore plus grand. En effet, il se peut qu'une personne veuille interdire un mal, mais que découle de son interdiction un mal plus grand que le premier. À ce moment-là, si on craint un mal plus grand, on repoussera ce mal plus grand en délaissant l'interdiction de ce mal qui est moindre. À supposer qu'une personne est en train de nuire à une autre, en lui parlant mal ou autre chose semblable, et que si on lui interdit, on craint que son mal augmente, qu'elle soit prise de colère et qu'elle se mette à le frapper ou autre chose semblable. Dans ce cas-là, on ne lui interdira pas le mal dans cette situation. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 108 de Surat al-An'am. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ » N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de dénigrer les divinités des polythéistes, alors qu'il y a en cela un intérêt religieux. Car ceci pourrait être la cause d'un mal encore plus grand, qui est le fait qu'ils injurient Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils injurient Allah en raison du fait que toi tu as dénigré leur divinité, tu es alors responsable de leur injure à l'encontre d'Allah. Comme le font certaines personnes aujourd'hui. Ils voient par exemple certains faibles d'esprit en train de dénigrer l'islam ou de dénigrer les musulmans sur les réseaux sociaux ou autres. Et ils leur répondent, ils se mettent à les dénigrer, à les insulter. Et qu'est-ce que fait cette personne pour se venger? Elle se met à injurier Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus grave et la plus odieuse. Et ceux qui sont la cause de cette injure, c'est qui? C'est ceux qui ont donné du crédit à cette personne. C'est ceux qui l'ont injurié. C'est ceux qui lui ont donné de l'importance en lui répondant. Alors qu'en réalité, ces personnes ne méritent que le mépris et l'ignorance. Donc vous voyez que parfois une personne pense faire le bien, souhaite interdire le mal, mais est la cause d'un mal encore plus grand. C'est pour cela, comme on a dit, qu'il est nécessaire, avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de connaître les conditions de cette noble adoration. Également, parmi les choses importantes à souligner à ce sujet, il y a le fait que lorsque tu ordonnes le bien ou que tu interdis le mal, il est nécessaire que tu fasses cela avec une bonne intention, que tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, mais également que ton intention soit que les gens se réforment. Tu ne dois pas chercher à les humilier, à les rabaisser ou à prendre le dessus sur eux. En effet, il y a parmi les gens certains qui ordonnent le bien ou interdisent le mal afin de prendre le dessus sur les gens ou encore de les rabaisser. Il n'y a pas de doute que ceci est un grave manquement. Il se peut qu'en faisant cela, il soit la cause d'un certain bien et qu'il repousse un certain mal. Mais malgré cela, celui-ci souffre d'un grave manquement s'il fait cela avec une mauvaise intention. Il est donc nécessaire, lorsque tu ordonnes le bien ou que tu interdis le mal, que tu aies l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens se réforment, qu'ils reviennent à la droiture. C'est cela ton objectif. Ce n'est pas de les humilier, ce n'est pas de prendre le dessus sur eux, ce n'est pas de les rabaisser. Mais si tu souhaites être récompensé, ton objectif doit être qu'ils se réforment, qu'ils reviennent à la droiture et délaissent les péchés. Et celui dont l'intention est bonne, alors Allah subhanahu wa ta'ala bénit ses efforts et l'aide dans ce qu'il entreprend. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: et lorsque l'un d'entre vous a des rapports intimes, ceci est une aumône. Et comme on l'a vu, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont étonnés de cela. Ils ont dit: ô messager d'Allah, l'un d'entre nous assouvit ses désirs et il a pour cela une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'interdit, dans le haram, n'aurait-il pas eu un péché? En effet, celui qui commet la fornication ou qui assouvit ses désirs d'une manière interdite, celui-ci sera dans le péché. Il n'y a aucun doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: de la même manière, s'il l'assouvit dans le licite, il est récompensé. Il a une récompense. C'est-à-dire que celui qui se suffit de ce qui lui est licite et qui délaisse ce qui lui est interdit, il est pour cela récompensé. De la même manière, si une personne consomme un aliment qu'il désire, en effet, il y a certains aliments que la personne peut apprécier plus que d'autres. Elle prend du plaisir à manger cet aliment. Et le fait de consommer cet aliment lui permet de se passer d'autres aliments qui lui sont interdits. Alors dans ce cas-là, cette personne est récompensée. Et tu vois à travers cela la diversité des voies de bien. Et qu'il y a une multitude de manières de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont très nombreuses. Si la personne a une bonne intention, lorsqu'elle boit, lorsqu'elle mange, lorsqu'elle dépense de l'argent pour sa famille, elle peut être récompensée à longueur de journée. Médite à ce sujet sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Lorsqu'il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu: et sache que tu ne fais aucune dépense par laquelle tu espères le visage d'Allah sans être récompensé pour celle-ci, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. C'est-à-dire le fait de nourrir son épouse, le fait de nourrir ses enfants, le fait de nourrir ceux qui sont à ta charge. Ceci est une obligation. Si l'homme ne dépense pas pour son épouse, celle-ci sera en droit de se plaindre de lui. Et ceci peut même faire partie des causes de divorce. Elle peut demander pour cela l'annulation de ce mariage. Il est obligatoire pour l'homme de subvenir aux besoins de son épouse en termes de nourriture, de boissons, de vêtements, de logements. Malgré cela, si lorsque tu le fais, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Et là, tu vois le rang immense de l'intention dans notre religion. Beaucoup de personnes ne pensent pas à cela. Médite lorsque tu fais tes courses, lorsque tu achètes de la nourriture, de la boisson, que tu achètes certains aliments qui plaisent à ton épouse, à tes enfants. Mets l'intention de faire cela pour les réjouir, afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque bouchée de nourriture qu'ils mangeront, tu seras récompensé. Pour chaque gorgée de boisson qu'ils vont consommer, tu seras récompensé. Et ainsi de suite. On voit donc à travers ce hadith que les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Et que si la personne est attentive à cela, alors elle peut se trouver dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de journée, ce du matin au soir. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.